J'aimerais vous partager en fait un petit peu ce que j'ai eu l'occasion d'étudier par les cours par correspondance à la fac de Vaud. C'est le livre de Jérémie. Ça m'a permis de redécouvrir un personnage, un témoignage de vie que je ne connaissais pas finalement plus que ça. Puis je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, comme il n'y avait personne ce matin, de vous partager ça. Alors, ce n'est pas du tout une prédication comme on l'entend, hein. C'est juste un partage de ce que j'ai retenu et de mes études sur Jérémie, en tous les cas le début. Alors, je vais vous lire le passage que je vais partager avec vous. Donc, c'est dans Jérémie chapitre 1, c'est donc l'appel de Jérémie, hein, du verset 11 au verset 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. « Que vois-tu ?» Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. » Et l'Éternel me dit, « C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples du royaume du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour, et contre les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Alors là, on est en moins 627 avant Jésus-Christ. Donc c'est loin, hein, vous me direz. Hein. Rien en commun avec ce que nous on vit aujourd'hui. Pas si loin que ça finalement et pas si différent avec ce qu'on est en train de vivre, en tous les cas dans le contexte social et politique dans lequel Jérémie reçoit son appel. Donc moins 627 avant Jésus-Christ, en moins 640, on a donc 13 ans avant, un roi qui s'appelle Josias et qui gouverne. Il accède au trône à l'âge de 13 ans, donc à l'âge de Nathanaël aujourd'hui. Et ce jeune homme, il cherche Dieu vers l'âge de 20 ans et décide d'entreprendre une réforme religieuse parce qu'il se rend compte que son peuple a abandonné Dieu au profit des divinités païennes. Le peuple n'est pas au temple, hein, pas de souci. Hein. Alors en apparence, il est proche de Dieu, mais en réalité, il est instable et tenté par le paganisme. Il est prêt à essayer toutes les us et coutumes des peuples alentours. Donc, infidélité, il oublie que Dieu l'a sorti d'Égypte. Violence, immoralité, hypocrisie, période difficile de l'histoire du peuple d'Israël. Et quand on lit le contexte, on se rend compte que c'est un peu aussi notre contexte aujourd'hui. Et bien, c'est dans ce contexte que Jérémie est appelé. Alors, Jérémie, c'est un jeune homme, hein, il ne faut pas croire qu'il a de l'expérience quand il est appelé par Dieu. Il est appelé à être témoin, il est appelé à rappeler les promesses divines et à annoncer que si le peuple ne se détourne pas de ses mauvais choix et de ses mauvaises voies, le malheur va s'abattre sur lui. Exil, désolation et promesses derrière. Alors, quand on regarde dans le petit Robert, l'appel, c'est l'action d'inviter à venir, mais aussi à agir. Et c'est bien de cela qu'il s'agit pour Jérémie. Dieu l'invite, simplement, avec douceur et comme une évidence, il l'invite. En grand pédagogue, Dieu, il ne néglige aucune étape de cet appel. Du regard en arrière qu'il pose sur Jérémie, jusqu'aux promesses de l'épauler dans l'avenir, avec un grand respect, Dieu prend en compte pleinement la personnalité du jeune homme. Il est destiné à être mis à part comme porte-parole de Dieu dans un contexte social violent particulièrement difficile. Dans ce contexte-là, Dieu va équiper Jérémie. Alors, dans un premier temps, on va essayer de voir ensemble l'appel de Dieu précisément. Ensuite, les deux visions que je vous ai lues dans le texte, à quoi elles correspondent. Et aussi comprendre pourquoi c'était important pour Jérémie de savoir que Dieu l'avait pleinement appelé et l'accueil qu'il va recevoir du peuple de cet appel, comment le peuple va accueillir Jérémie et ce qu'il va leur dire. Une consacration divine était indispensable parce que, comme on l'a lu et comme je l'ai redit en introduction, l'accueil, le contexte était violent et le peuple n'était pas prêt à entendre ce que Dieu avait à lui dire, même dans la bouche de Jérémie. Alors l'appel de Jérémie, par rapport aux autres prophètes, il n'y a pas de roulement de tambour, pas de buisson ardent, pas d'ange qui descend du ciel. Une vocation à la première personne, tout simplement, Jérémie dit « L'Éternel m'adressa la parole en ces termes ». On a l'impression que Dieu il vient tout doucement à la rencontre de Jérémie. Jérémie, donc, c'est un jeune homme, il est issu d'une famille de prêtres, c'est un jeune homme pieux. Il a certainement, quand on lit son livre, on sent une intimité avec Dieu. Certainement, c'est aussi un jeune homme qui aime certainement la contemplation plus que l'action. Et là, Dieu l'appelle. Est-ce que c'est la première fois qu'il lui parle? On ne sait pas trop. Hein. En tous les cas, contrairement à Isaïe, qui s'était cru mort quand il a vu Dieu, Jérémie, limite, il n'a pas l'air surpris. Hein. Son souci semble être plus le rapport avec les autres qu'avec Dieu. Jérémie dit, moi je ne sais pas m'exprimer, comment je vais faire tout ce que tu me demandes? Alors Dieu lui explique, clairement, comme un petit enfant lui explique, et pour cela il part du début. Il lui dit, avant même ta naissance, comme un acte premier et gratuit, je t'ai choisi. Donc cette fonction de prophète, elle existait avant que Jérémie naisse. Je te connais, il lui dit. Il y a une communion entre Dieu et Jérémie. Je t'ai mis à part. Donc, il légitime son élection. C'est un choix divin pour un service divin. Et il lui dit, je t'ai établi. En disant cela, il donne un moment d'action, une temporalité. C'est maintenant, aujourd'hui, Jérémie, que je t'ai choisi. Et voilà le job que je vais te donner. Alors bon, Jérémie, conscient de ses limites, hein, il ne s'en sent pas du tout l'étoffe, comme nous des fois. Hein. Il ne se sent pas l'étoffe de faire tout ce que Dieu lui demande. Alors Dieu lui dit, t'inquiète pas, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Ça veut dire qu'il y a un rite d'investiture, un acte symbolique, Dieu met les paroles de Dieu, met ses paroles dans la bouche de Jérémie. Et voilà la liste des tâches à accomplir pour Jérémie, le super job. Alors, Dieu lui demande déjà de déraciner, donc c'est-à-dire de déboulonner quelque chose vissé au sol, d'extirper. Il va lui demander de renverser, de démolir, de remettre à plat. Il va lui demander de ruiner des choses, de les exterminer, de les détruire. Il va demander de démolir des autels, des murailles. Déjà là, moi, je pense qu'on serait tous partis en courant. Et puis, les deux autres verbes positifs qui suivent derrière, il va lui demander ensuite de construire, de bâtir, de dresser, de remettre debout, et de planter, de donner des racines et de faire tenir debout comme les prophètes avant lui. Alors, le job, il est clairement énoncé, les verbes marquent les étapes obligées de la mission de Jérémie. Il va falloir extirper le mal, lutter contre les idoles, remettre tout à plat et redonner de l'espérance et des bases saines au peuple de Dieu. Bon, Jérémie, pas forcément super enthousiaste à tout ça, il répond tout de même oui. Et le oui de Jérémie va mettre l'ensemble en marche. Et Dieu va en plus lui donner, j'allais dire le petit bonus, il va lui donner deux visions. Alors les visions, ce n'est pas juste comme ça pour faire beau. Hein. Les visions, elles vont servir à Jérémie à savoir où il va aller. Donc, le « oui » est donné. Dieu assure à Jérémie son soutien. « Je suis avec toi et je te protégerai. » Donc les deux visions de Jérémie, on les a lues ensemble. Alors, pour accompagner Jérémie, donc, ces deux visions sont données par Dieu, comme d'autres prophètes avant lui. D'ailleurs, c'était quelque chose de courant. Dieu épaulait en plus ses prophètes en leur donnant clairement des visions. Et là, deux fois dans le texte que j'ai lu, il lui dit « Que vois-tu, Jérémie ?» Et là, on a l'impression qu'il est en train de lui projeter, comme tout à l'heure, en galérant certainement moins. Il lui projette. On a l'impression que Jérémie, il voit la branche d'amandier, qu'il la voit comme je vous vois et comme vous me voyez. Alors, la branche d'amandier, en fait, donc ça, je ne savais pas avant, hein, le symbole qui est derrière cette branche d'amandier, nous, aujourd'hui, en 2016, on comprend peut-être pas, mais la racine du verbe, elle est de racine hébraïque et elle veut dire « veiller ». La branche d'amandier, c'est la première fleur à sortir de l'hiver. L'amandier tardif sort, il s'impose au regard, il force l'admiration et la méditation. Il annonce le printemps, de même que cette vision annonce ce que Dieu va accomplir. C'est un Dieu qui veille sur le peuple. Et la branche, enfin la fleur d'amandier fleurit, elle est patiente et quelle que soit la rigueur de l'hiver, elle s'ouvre quoi qu'il arrive et elle s'offre au peuple. Alors, première vision, hein, d'encouragement, Dieu veille. La deuxième vision, c'est la vision de la marmite bouillonnante. Alors, la première fois que moi j'ai relu ce texte, je me suis dit, mais pourquoi cette marmite? Alors, en creusant un peu, j'ai appris que, en fait, c'était symbole de malheur, la marmite. Et en plus, le texte nous dit qu'elle penche vers le nord. Donc, Jérémie, au départ, pouvait penser que le malheur allait venir de l'Égypte. Hein, et en fait, en réalité, il vient du nord. Et le nord, c'est Babylone. Donc, en donnant cette image, Dieu prévient Jérémie que le malheur va venir de Babylone. Et du coup, quand ça va arriver, puisque le texte à la suite confirme que c'est ce qui va se passer, le peuple ne sera pas étonné et Jérémie, en tous les cas, pourra donner quelque chose de clair et de précis comme directive. Donc, en lui donnant ça, Dieu confirme l'avenir à Jérémie avant qu'il ne se passe. Il lui dit, en parlant du peuple du Nord, « Ils viendront et chacun installera son trône. » Donc, Jérémie est au courant de la perspective douloureuse qui va se passer si le peuple ne revient pas sur des voies raisonnables. Dieu veille, mais le malheur arrive tout de même. Le malheur est personnalisé donc par l'affrontement entre le royaume d'Israël et Babylone. Et les visions vont donc aider Jérémie à guider le peuple. Ils vont l'aider à discerner les choses. Et ils vont surtout l'aider à rester inébranlable malgré tout ce qui va se passer. Donc c'était important pour lui, vu la liste des choses qu'il avait à faire, qu'il soit assuré de son appel divin. Alors, c'était primordial donc que son appel soit confirmé par Dieu. C'était primordial que Jérémie soit assuré de sa consécration pour se mettre au travail, pensez bien. Renverser, ruiner, démolir, bâtir et planter. Qui voudrait d'une telle mission? Personne. Sans l'assurance d'avoir le Dieu et l'Éternel comme appui. Alors, la mission de Jérémie, elle est ancrée, donc on l'a déjà dit plusieurs fois, dans un contexte et une conjecture de crise. Jérémie, c'est un homme, on le voit dans ses écrits, très sensible. Il va devoir affronter un peuple hostile. Hostile à son message, hostile à sa personne. C'est pas un prophète de malheur, comme l'entendent certains, parce qu'il est lui-même à souffrir de cette situation qu'il va annoncer. Mais il se doit de dénoncer la désobéissance du peuple, son idolâtrie, son abandon de Dieu et de l'alliance de départ. Mais le peuple, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez bien qu'ils ne vont pas se réjouir hein, de ce que Jérémie leur annonce. Et ben non, il n'en veut pas du message du prophète. Parce que le peuple, il est bien content d'aller manger à droite, d'aller manger à gauche, d'oublier l'Éternel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jérémie va souffrir du rejet, de l'incompréhension et de la persécution. C'était donc primordial qu'il soit convaincu de l'appel divin pour poursuivre sa mission. Et Dieu lui dit d'ailleurs, « Et moi, je fais de toi comme une ville fortifiée. » Le peuple, il reconnaît Jérémie comme prophète parce qu'ils ont l'habitude, en fait, de consulter les prophètes pour des questions d'ordre spirituel, même des questions d'ordre pratique. Ils avaient l'habitude aussi que les prophètes exhortent à la repentance et soient consultés en tant que messager de Dieu. Mais là, la parole de Jérémie, elle est là pour dénoncer. Et le peuple, il n'a pas envie d'entendre ça. Il n'a pas envie d'entendre, il a envie d'être caressé dans le sens du poil, et Jérémie va à l'inverse. Donc il va à contre-courant de ce que le peuple souhaite entendre, et donc du coup, il va aller loin jusqu'à la persécution. Dieu dit d'ailleurs, il le prévient, ils vont combattre contre toi. Le peuple ne veut pas du messager Jérémie, il a abandonné le Seigneur, il vit dans l'idolâtrie, dans l'hypocrisie, il se croit protégé parce qu'il pratique une forme de religion en allant au temple, mais il y a une distorsion, un écart entre ce qu'il vit au quotidien, en apparence, et ce qu'ils ont dans le cœur. Il y a une distorsion. Le geste et le cœur, c'est différent. Une hypocrisie qui est vraiment poussée à l'extrême. D'ailleurs, on le voit dans le texte qui suit. Ça ne leur gêne pas du tout d'aller prier le Seigneur le dimanche et faire n'importe quoi, ou le dimanche ou les autres jours, et faire n'importe quoi après avec les autres divinités. Même le roi, qui à l'époque avait une responsabilité politique mais aussi sociale, ne suit pas le prophète Jérémie. Il est contre ce qu'il dit, il va jusqu'à le rejeter et même le persécuter. Le peuple veut un autre Dieu, il est sourd aux avertissements de Jérémie, et c'est pour cela que Dieu se retourne contre lui sous les traits de l'ennemi et que le malheur viendra de Babylone. Jérémie, seul, avec la seule assurance de l'appui de Dieu, va devoir annoncer tout ça au peuple. Ils vont combattre contre toi, Dieu parle, mais ils ne l'emporteront pas, car je suis avec toi. L'Éternel le déclare, je te protégerai. Face à toutes les oppositions, face à toutes les hostilités, à ce grand jeune homme timide, Dieu a fait la promesse d'en faire un mur inébranlable. Or, pas une promenade de santé pour lui, mais une succession d'épreuves, dans laquelle il a une garantie qui lui est offerte, celle que Dieu sera toujours avec lui. C'est un homme de parole, Jérémie, qui, avec le soutien précieux de l'Éternel, assumera avec assurance et persévérant ce pourquoi il a été appelé. C'est un prophète du peuple, un prophète des nations, et il va jusqu'à se confondre avec la parole dont il est le dépositaire. À partir du moment où Jérémie se présentera dans les chapitres suivants au temple, tout est dit. Seul contre tous, ou presque, conscient de ses limites, mais fidèle jusqu'au bout, le prophète Jérémie ne fuira devant aucune perspective de lutte, d'épreuve et de souffrance, et une seule lumière l'accompagnera, je suis avec toi. Je trouve que c'est une personne, un des prophètes qui force l'admiration et dont l'exemple, évidemment, est à suivre. Sur le plan personnel, Jérémie ne se sentait certainement pas prêt à affronter tous ceux pourquoi il a été appelé. De par sa personnalité, beaucoup plus contemplative, plus timide, il aurait certainement préféré rester en retrait dans ce contexte social difficile. Et pourtant, il s'est levé, il s'est mis en marche, et son « oui » qui a été prononcé a changé le cours de l'histoire d'Israël. Ah, toute proportion gardée, les temps de crise dans lesquels a évolué Jérémie, mais pas sans rappeler les temps troublés de notre époque contemporaine, 3000 ans après. Et en conclusion, je me suis dit, et si aujourd'hui un Jérémie se levait, d'une façon ou d'une autre, pour dénoncer l'hypocrisie, l'abandon du peuple, des hommes envers leur créateur, quelles attitudes les auditeurs adopteraient-ils face au message? Et j'ai aimé apprendre un peu plus sur Jérémie. Ça m'a remis en question parce que j'ai aussi beaucoup appris sur la fidélité de Dieu et sur les outils ou les moyens qu'il donnait lorsqu'il nous envoyait à notre propre échelle être ses témoins. Voilà, donc j'espère que le portrait de Jérémie vous a rafraîchi la mémoire et que vous aurez envie de lire un peu plus ce qui lui arrive après, parce que ce qui a été annoncé est arrivé. Donc si vous avez... Si je vous ai donné soif de lire la suite du livre de Jérémie, vous saurez tout ce qu'il a pu vivre ensuite à travers le peuple et comment Dieu a tenu ses promesses jusqu'au bout. C'est un livre qui n'est pas forcément facile à lire, mais une fois qu'on s'y accroche et qu'on passe sur les choses qu'on ne comprend pas forcément, on apprend beaucoup de choses sur Dieu et sur sa relation avec nous. Ouais. Merci.